Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins aiment se dire tous les jours que le monde n'est pas ce qu'il paraît. En compagnie de Jean Danielou, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Valentin Schmitt et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture des textes cette semaine, le détective Georges Kless, à la réalisation d'enquêtes décisives, Olivier Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son sans complot, Alexandre Dang. Quelle différence entre un détective et un paranoïaque ? Entre celui qui ausculte les apparences à la recherche de fissures d'où jaillirait la vérité et celui qui, parce qu'il est persuadé qu'on le trompe, soupçonne dans ce qu'il voit tout ce qui n'y est pas et donc pense que la vérité est toujours cachée. Le paranoïaque ne doute pas, il est persuadé. Pour lui, pas de mystère, aucune énigme, aucun écran entre lui et cette vérité qu'il chérit tant. Le paranoïaque sait. Son malheur n'est pas de soupçonner la terre entière de se jouer de lui, mais d'en être certain et d'être le seul à le voir. La paranoïa est une solitude douloureuse mais rassurante, car le malheur de voir la vérité en face est compensé par la satisfaction d'y être enfin parvenu. « Je le savais », lance le jaloux devant l'épreuve de son coquifiage, mais sans savoir s'il doit se réjouir d'avoir eu raison ou se lamenter qu'il en soit ainsi. Ambivalence shakespearienne, tourment rousseauiste, si la paranoïa est la condition de l'homme moderne face à l'effondrement des grands récits, une chose est sûre, elle n'est pas incompatible avec le génie. Et pour preuve, demain, Luis Eduardo Prado de Oliveira viendra vous présenter le cas Schreiber à partir de ses mémoires d'un névropathe. Mercredi, Alain Gros-Richard viendra trancher entre Rousseau et Jean-Jacques, qui sont en procès l'un avec l'autre. Et jeudi, c'est François Larocque qui se délectera de la folie humaine de Richard III et du Comte d'Hiver, les pièces de Shakespeare où le doute mène au crime. Mais avant de passer à l'acte, tentons de définir et de comprendre. Et c'est le sociologue Luc Boltanski qui nous emmène aujourd'hui dans l'univers bien réel des théories du complot.
C'était un Américain du Kentucky qui, ses études terminées, était parti courir le monde car il avait de la fortune. Doué d'un certain talent d'écrivain, il avait été correspondant de guerre d'un journal de Chicago et avait passé un an ou deux dans le sud de l'Europe orientale. Pour autant que je puis en juger, c'était un garçon à l'esprit aigu mais agité qui voulait toujours aller jusqu'à la racine des choses. Selon lui, il existait derrière tous les gouvernements et leurs armées un vaste mouvement souterrain dirigé par des gens extrêmement dangereux. Il l'avait découvert par hasard. Cela l'avait fasciné. Il avait voulu en savoir davantage et avait été pris au piège. Toujours d'après lui, la plupart des gens qui faisaient partie de ce mouvement étaient des anarchistes cultivés qui font les révolutions. Mais à côté d'eux, il y avait des financiers qui jouaient le même jeu dans le seul but de s'enrichir. Un homme intelligent peut tirer de gros profits quand le marché est à la baisse et ceci et cela avaient un intérêt commun à la ruine de l'Europe. Il m'éclaira sur certaines choses qui m'avaient intrigué pendant la guerre des Balkans et m'expliqua la raison de la montée en flèche d'un certain État, de la formation et de la rupture des alliances et des causes secrètes de la guerre. Le but de la conspiration présente était de créer un conflit entre la Russie et l'Allemagne. Quand je voulus savoir pourquoi, il répondit que les anarchistes voyaient là un moyen de trouver leur chance. À la faveur de la confusion générale, un monde nouveau émergerait. Quant aux capitalistes, ils édifieraient des fortunes sur les ruines.
Et c'est le moment où je salue mon invité, Luc Boltanski, le sociologue, auteur d'Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête, un excellent ouvrage publié aux éditions Gallimard. Mais c'est le moment où je ne suis pas paranoïaque et je ne crois pas à la théorie du complot, mais je suis obligée de constater que Luc Boltanski n'est pas en studio avec moi. Il est dans le bus ou dans les escaliers montant au studio, je ne sais pas. Je vous propose en l'attendant d'écouter le délicieux Dali qui vous propose sa définition du paranoïaque, qui est en lien, vous le verrez si Luc Boltanski arrive, avec la définition que lui-même donne de la paranoïa, en lien avec la position critique. Écoutez.
La célèbre méthode paranoïaque critique, il a la vertu que c'est une méthode que j'ai inventée il y a maintenant plus de 35 ans et malgré qu'il fonctionne à merveille, encore aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas en quoi elle consiste. Mais une chose est certaine, c'est qu'il sert merveilleusement pour gagner de l'argent. Paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Tout ça, ça voudrait dire, d'une façon courte, que Dali est un fou de bonne qualité et de précision.
Le développement du roman policier est concomitant avec une innovation importante qui intervient dans le domaine psychiatrique. Il s'agit de l'intervention et de la description, en 1899, par le psychiatre allemand Emil Kraepelin, d'une nouvelle maladie mentale appelée paranoïa. Or, d'appeler Kraepelin, l'une des caractéristiques morbides que présentent les sujets atteints par cette maladie est précisément de prolonger, dans les circonstances ordinaires de la vie, l'enquête au-delà du raisonnable, comme si les contours et la teneur de la réalité présentaient toujours, à leurs yeux, un caractère problématique. L'enquêteur des romans policiers agit donc comme un paranoïaque, à cette différence qu'il est sain d'esprit. Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Nous attendons l'invité du jour, Luc Boltanski, pour ce premier temps de notre série d'émissions consacrée à la paranoïa. Le sociologue Luc Boltanski est l'auteur d'un essai intitulé « Énigme et complot, une enquête à propos d'enquête » publié aux éditions Gallimard et dans lequel il esquisse le rapprochement entre la figure du détective et même celle du roman policier et le paranoïaque, tous deux étant dans une position critique vis-à-vis de la société. Tous deux essayant de déceler les mystères et de déchiffrer les énigmes pour atteindre enfin la vérité.
Ils recueillent des données et font des tests, toutes sortes de tests. Ils testent des agents chimiques, biologiques, ils mesurent l'activité cérébrale, l'endurance, mais j'en comprends pas la plupart. Et c'est seulement ce que j'ai vu dans mon service.
J'ai entendu dire que certains faisaient d'autres genres de travaux. C'est juste des rumeurs.
Les enfoirés, on leur sert de rats de laboratoire. Comment vous pouvez faire subir ça aux gens? J'ai jamais rien fait pour mériter ça.
Hé hey! On est innocents, nom de Dieu!
C'était un Américain du Kentucky qui, ses études terminées, était parti courir le monde, car il avait de la fortune. Doué d'un certain talent d'écrivain, il avait été correspondant de guerre d'un journal de Chicago et avait passé un an ou deux dans le sud de l'Europe orientale. Pour autant que je puis en juger, c'était un garçon à l'esprit aigu, mais agité, qui voulait toujours aller jusqu'à la racine des choses.
J'habite depuis des mois à l'adresse A. Lu mille fois le nom des rues et les numéros des maisons, ai reçu 1000 lettres et donné l'adresse à 1000 personnes. Si je me trompe sur ce point, cette erreur est à peine moins grave que si je croyais à tort que j'écris chinois et non allemand. Si un de mes amis s'imaginait un beau jour avoir vécu longtemps en tel endroit, je n'appellerais pas cela une erreur, mais un dérangement mental, peut-être passager. Les croyances fausses de ce genre ne sont pas toutes des erreurs. Mais quelle est la différence entre erreur et dérangement mental? Ou plutôt, comment se présente cette différence quand je traite quelque chose comme erreur et quand je le traite comme dérangement mental? Peut-on dire « une erreur n'a pas seulement une cause, mais aussi un fondement » ? Ce qui veut dire à peu près « l'erreur est susceptible de trouver sa place dans ce qui sait correctement, celui qui se trompe ». La différence entre erreur et dérangement mental, c'est à Wittgenstein qu'on la doit. Dans son ouvrage, ses essais intitulés « De la certitude », une succession de paragraphes, très utile pour l'émission du jour, pour essayer de définir ce qui distingue le paranoïaque du critique, du sociologue, du détective. Et au moment où je vous parle, voici Luc Boltanski qui rentre en studio et qui va s'installer dans un instant.
Écoutez tous. Je veux qu'on réussisse cette mission. Je veux qu'on réussisse cette mission.
Bonjour Luc Boltanski.
Bonjour.
Bienvenue en studio, je suis ravie de vous accueillir enfin. Donc nous avons commencé l'émission sans vous, si j'ose dire, même si j'ai...
Il y avait un complot pour m'empêcher de venir.
Il y avait un complot, alors c'est ce que je disais. Je disais justement que je n'étais pas paranoïaque et je ne croyais pas à la théorie du complot, mais que j'étais obligée de constater votre retard. Donc je suis ravie que vous ayez remédié. Nous avons commencé l'émission avec un extrait des 39 marches. Le livre de John Buchan que vous citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage « Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête » aux éditions de Gallimard. Et j'aimerais qu'on commence avec ça, si vous en êtes d'accord. Quel est le lien ou pourquoi une telle affinité entre roman policier ou roman d'espionnage et théorie du complot ?
C'est surtout vrai pour le roman d'espionnage plus que pour le roman policier. D'autre part, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser... théorie du complot, comme s'il s'agissait d'une notion objective, transhistorique, etc. C'est une idée qui a été construite dans les années 60 aux États-Unis, 50-60 aux États-Unis, qui a toujours été utilisée comme une arme pour réduire un certain nombre d'arguments d'adversaires. Donc c'est pas quelque chose qui existe en soi. Par contre, on peut considérer, alors pour revenir à Buchan et aux 39 marches, il s'agit d'un roman écrit en 1915 par un écrivain anglais qui a écrit beaucoup de livres, qui a eu pas mal de succès à l'époque, qui était un membre de l'establishment. Il a fini vice-roi du Canada et il avait lui-même servi dans les services secrets, comme la plupart des grands écrivains de romans d'espionnage anglais. Et on peut considérer que les 39 marches est en quelque sorte le prototype sur lequel va se construire cette littérature d'espionnage qui est surtout anglaise. Il y a très peu d'équivalents français jusqu'à une période assez récente. Par contre, le roman policier naît environ 20 ans avant, on va dire, 20 ans avant, dans ses formes contemporaines, chez Conan Doyle surtout, un peu chez Gaboriau en France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit d'un genre dont effectivement le genre d'espionnage dérive et qui va devenir le principal genre, la principale innovation littéraire dans le champ de la narration et du roman au XXe siècle et qui va prendre très vite une ampleur très importante. Alors un des soucis du livre que j'ai écrit, puisque vous m'interrogez à propos de ce livre qui s'appelle Énigmes et complots, ça a été de lier trois phénomènes qui apparaissent à peu près en même temps, à la fin du 19e, au début du 20e, et qui sont donc le développement du roman policier et du roman d'espionnage, l'invention de la paranoïa par Kraepelin en Allemagne, et le développement des sciences sociales.
Alors, qu'est-ce que le roman policier et, disons, l'invention de la paranoïa peuvent avoir en commun? Vous essayez, dans votre ouvrage, de proposer une lecture conceptuelle et de montrer que tous les deux ont affaire avec un certain rapport à la réalité. D'ailleurs, vous distinguez la réalité du monde, on va y venir dans un instant, et surtout un rapport aux énigmes. Il s'agit d'essayer de trouver la clé aux énigmes et aux mystères qui nous permettraient d'accéder à une réalité qui, elle, est toujours cachée.
Oui, le roman policier n'a pas nécessairement besoin du crime. Le cœur n'est pas le crime. Le crime a toujours été le centre de la littérature, d'une certaine façon, et le centre de l'État, puisque l'État se justifie par le fait d'empêcher le crime ou de punir le crime. Mais ce qui est au cœur du roman policier, c'est l'énigme. Alors, je définis l'énigme en prenant appui, d'ailleurs, sur une analyse des histoires de Father Brown, de Chesterton, qui est un très grand écrivain anglais du début du XXe siècle, qui a écrit des histoires, mais en fait métaphysiques, mais prenant le format du roman policier. Et l'énigme, c'est une rayure de la réalité. C'est quelque chose qui ne colle pas avec la réalité en tant qu'elle est prévisible.
Alors, c'est ça. Comment vous définissez la réalité dans ce cas?
Alors, je définis la réalité en la distinguant, effectivement, comme vous l'avez dit, de ce que j'appelle le monde. J'appelle le monde, mais ça a été développé dans un ouvrage précédent qui s'appelle De la critique. J'appelle le monde, en reprenant la formulation de Wittgenstein, tout ce qui arrive, même tout ce qui est susceptible d'arriver. Et je décris la réalité comme étant une sélection organisable par rapport à tout ce qui arrive, par rapport notamment à la multiplicité d'événements qui sont liés au flux de la vie, et qui ne sont pas tous sociaux, hein. Un tsunami, ça arrive, c'est pas social. Bon. Et une des thèses du livre est que un élément central de la fin du XIXe siècle est le développement des États-nations, spécialement des deux grands États-nations démocratiques d'Europe que sont la France et l'Angleterre, dans le sens de la prise en charge par l'État d'une réalité de façon à ce qu'elle devienne stabilisée et prévisible sur un territoire pour une population à l'intérieur de frontières. Et ce projet est donc un projet de constitution et de stabilisation de la réalité. Par exemple, ce matin, j'attendais un taxi. Ce taxi n'est pas venu. C'était d'une certaine façon une mise en cause de ma réalité, puisque normalement, à cette station-là, il y a toujours des taxis le matin, etc. De même, on attend l'autobus. Et si je prends un taxi, je n'attends pas à ce qu'il m'amène dans les boîtes verrières pour me donner un coup de couteau. J'attends à ce qu'il m'amène à la maison de la radio. Et ce projet qui prend appui sur les sciences et sur les sciences sociales, qui est très proche du projet biopolitique tel que l'a décrit
Michel Foucault,
est sans arrêt mis en cause par le développement concomitant du capitalisme, c'est-à-dire par des flux qui traversent le territoire, qui sont des flux de marchandises, d'argent, de travailleurs, d'hommes d'affaires, d'intérêts, etc. Et du même coup, le projet étatique qui est censé être un projet protecteur, simplificateur, et en quelque sorte donnant une sorte de quiétude aux citoyens, entraîne une inquiétude. Et à mon sens, c'est cette inquiétude que font travailler le roman policier et le roman d'espionnage. C'est ça qu'on appelle le suspense, d'une certaine façon. C'est on vous montre que la réalité n'est pas du tout ce qu'on croyait qu'elle était, qu'il y a des énigmes qui empêchent qu'elle soit cohérente, et puis à la fin, on vous remet la réalité sur ses pieds grâce à l'exploration, à l'enquête du détective qui est allé au fond des choses et qui a atteint une autre réalité, mais ce qui va l'aider à remettre en place la réalité officielle, en quelque sorte.
C'est ça, il y a quand même une dichotomie entre la réalité officielle et la réalité cachée.
Ah bah bien sûr.
La si vérité vous... étant toujours du côté de la réalité cachée, en fait.
Bah si vous voulez, ce projet, comme ce projet de faire tenir la réalité, d'une certaine façon, si je puis dire, ne tient pas debout, est un projet démiurgique impossible à réaliser, il entraîne des inquiétudes, et spécialement quand des événements imprévus se produisent, il entraîne ce que j'appelle une masse manquante de causalité. On ne comprend pas, à partir des données de la réalité officielle, comment une telle chose a pu se produire. Parce que la réalité officielle a prétendu, d'ailleurs, fournir des explications qu'elle ne pouvait pas fournir. Et du même coup, on va chercher un niveau sous-jacent et on va traiter la réalité comme si elle était distribuée entre une réalité officielle, superficielle, plutôt harmonieuse mais fausse, et une réalité cachée qui est au contraire dangereuse, malfaisante, mais évidemment bien plus réelle.
Mais alors pourquoi ce lien avec la présence et la constitution de l'État, d'un État providentiel qui serait là pour dispenser une forme de stabilisation de la réalité et permettrait à l'homme donc d'avoir des critères stables et fermes dans lesquels se mouvoir et du coup pouvoir mieux faire face à la contingence du monde, hein, si je reprends ce que vous avez dit, pourquoi une telle attente vis-à-vis de l'État? Je veux dire, cette stabilité de la réalité, on pourrait la trouver ailleurs que dans la forme étatique.
Ben, le problème, c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'État a suscité cette demande dans la stabilisation de la réalité si je puis dire. C'est parce que la montée en puissance des États-nations est liée à un autre phénomène dont je parle pas ou peu dans le livre d'ailleurs, qui est la déliquescence de plus en plus grande au XIXe siècle, des formes traditionnelles de stabilisation de la réalité. Donc l'urbanisation, si vous voulez, si ça, j'en parle un peu. Les personnes sont jetées dans des univers urbains et n'ont plus à leur disposition des systèmes, par exemple, mythico-religieux, qui dans d'autres sociétés, toutes les sociétés sont affrontées au même problème, mais elles ne le traitent pas toutes de la même façon, n'ont plus les systèmes mythico-religieux qui servaient à refaire de la réalité. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré dans ce livre de ce que Lévi-Strauss dit du mythe, dans L'homme nu, quand il dit que le mythe, au fond, qu'une fonction, si on peut dire, il n'est pas fonctionnaliste, mais disons qu'un rôle que joue le mythe est celui de faire travailler les contradictions qui habitent toujours une société, non pas pour les résoudre, c'est pas une dialectique, mais pour qu'on s'y habitue, donc les faire travailler dans tous les sens. Et à mon avis, c'est ce que font le roman policier et le roman d'espionnage originel. La différence, si vous voulez, par rapport à l'État dans les deux genres, c'est que dans le roman policier, l'État a en charge la remise en état de la réalité, bien que le plus souvent, vous avez un dédoublement qui est très sensible, par exemple, avec Sherlock Holmes, qui n'est pas policier, entre le policier d'État, qui est réservé au travail facile de mise en cause des basses classes, et le détective d'élite, qui, lui, se charge des affaires complexes, qui ne doivent pas rentrer dans l'espace public. Par exemple, dans Sherlock Holmes, l'affaire Cahuzac, si je puis dire, serait dénouée en façon tout à fait peu transparente par Sherlock Holmes, de façon à ce qu'elle ne se retrouve pas dans les journaux. Dans le roman d'espionnage, si vous voulez, ça va un pas plus loin. Alors vous avez bien des genres de complots dans le roman policier, vous avez des connivences entre des acteurs qui savent des choses, etc. Dans le roman d'espionnage, ça va un pas plus loin, puisque c'est directement l'État qui est mis en cause, et c'est l'État qui est envahi par des taupes, par des personnes malfaisantes qui veulent la destruction de l'État. Et le problème, le roman d'espionnage originel est un roman nationaliste, d'inspiration nationaliste, et le problème, c'est le couple État-nation. Au fond, ce que dit le roman d'espionnage, c'est la nation n'est plus protégée par l'État, et il faut qu'un brave et courageux jeune homme envahi, nourri d'esprit national, sauve la nation contre l'État. Et du même coup, permettre de restaurer l'État lui-même, qui d'habitude, l'État envisageait plutôt un État genre-fasciste qu'autre chose. Et vous avez également, dans ce cas-là, un dédoublement du héros, puisque, comme c'est le cas dans les 39 marches, mais ça servira de modèle, il est à la fois poursuivi par le complot, par l'association secrète qui veut la fin de la nation, la pierre noire dans le livre de Buchan, et par les forces de police de l'État qui l'accusent injustement d'un crime.
Tous les potentats occidentaux ont déclaré dans un discours ou un autre, et même plusieurs, qu'ils travaillaient à l'avènement d'un gouvernement mondial, et du nouvel ordre mondial et d'un gouvernement mondial. Donc aujourd'hui, c'est une certitude. Mais c'est vrai que ça fait que quelques années depuis Bush père qu'on a commencé à parler de nouvel ordre mondial et de gouvernement mondial. Avant, c'était un projet caché dont certains initiés disaient que c'était le projet des Bilderberger ou le projet secret du CFR, etc. Aujourd'hui, c'est annoncé officiellement, ce qui veut dire qu'on est prêt. Ça veut dire qu'on a passé une étape et qu'on est près de la fin d'une certaine manière, parce que quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'il avant il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné, vous voyez. Vous annoncez que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. Effectivement, le fait que tous les hommes politiques occidentaux aujourd'hui disent qu'ils travaillent à un gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial, le souhaitent et y travaillent, etc., plus tous les conseillers, nos experts, les Attali, les machins, prouve que nous sommes très prêts dans leur esprit d'y arriver, bien sûr, mais la réponse elle est là.
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager?
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h28, on nous cache tout, on nous dit rien, c'est Jacques Dutronc qui lance cette première émission d'une série consacrée à la paranoïa, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Luc Boltanski, le sociologue Luc Boltanski, auteur notamment d'Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête, publiée aux éditions Gallimard.
Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron, on nous cache tout, on nous dit rien, l'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache, cache, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Luc Boltanski, est-ce que le sociologue que vous êtes peut déceler les mécanismes à l'œuvre dans les théoriciens du complot, puisqu'on entendait la voix d'Alain Soral juste avant d'écouter Dutronc, Alain Soral qui dans son propos, ça durait une minute, reprenait tout le lexique du parano, la certitude, on est près de la fin, on parle d'un discours verrouillé, d'une organisation mondiale qui est contre nous. Alors, si pour reprendre ce que vous avez dit avant, le paranoïaque ou peut-être le théoricien du complot, il faudra les distinguer, essaye de pallier la contingence du monde avec une reconstruction d'un sens, d'une réalité peut-être fictive. Comment expliquer qu'il y ait toujours ces mêmes termes qui reviennent? Il y a quand même un genre, une catégorie de la théorie du complot qui est facilement identifiable.
Oui, là, c'est compliqué comme type de relation, parce que il y a certainement un trouble psychomental qui correspond en partie à des descriptions de la paranoïa, et qui sont d'ailleurs le mieux identifiés par Freud, qui sont, disons, une difficulté à donner un sens immédiat à un certain nombre d'objets de la vie quotidienne. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec des questions, disons, sociales et politiques. Et le lien qui a été fait donc entre les deux est à interroger. Et en fait, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que ça serait très long, mais il s'est construit à travers l'anthropologie culturaliste des années 30-40, qui a considéré, qui a qualifié certaines cultures en général de paranoïaques, et puis surtout à travers le travail d'historiens et de politistes comme Hofstadter, qui vient d'être publié en français, aux États-Unis dans les années 50-60, pour renvoyer dos à dos un certain nombre d'accusations portées contre l'ordre américain, d'extrême gauche venant des communistes et d'extrême droite venant de McCarthyistes ou de Goldwater. Alors, le problème, si vous voulez, c'est la question. Il y a deux problèmes centraux. Trois, je vais en rajouter un troisième. Le premier problème, évidemment, c'est qui détient réellement le pouvoir sur ce qui se passe. C'est la question de la masse manquante de causalité. C'est, vous avez, ce matin, il y a eu une information atroce sur quelque chose qui se passe au Kenya. À quelles entités doit-on attribuer cet événement? Est-ce qu'il est suffisant pour notre interprétation, pour qu'on puisse le comprendre, de l'attribuer à ces islamistes de Somalie? Je prends cet exemple parce qu'il est là ce matin, je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas de doute à avoir. Mais on pourrait imaginer des mises en doute sur quelles sont la chaîne causale, comment comprendre, mais ces islamistes, est-ce qu'ils n'ont pas été poussés par quelqu'un d'autre, mais, etc. Quelle est la chaîne causale qu'il faut mettre en place? Un second problème très important, c'est celui des entités, des liens sociaux qui sont acceptables, légitimes et transparents, et des liens sociaux qui sont cachés. C'est-à-dire que si vous dites Monsieur X est membre et professeur à la Sorbonne, on va considérer qu'il va de soi qu'il fréquente des professeurs à la Sorbonne. Donc c'est un lien qui a des contours officiels, juridiques en quelque sorte, ou si on dit les sénateurs, ou si on dit etc. Par ailleurs, vous avez toutes sortes de liens qui sont des liens qu'on va dire personnels, d'affinité, de choix, et qui ne vont pas avoir le même caractère de légitimité. Et donc si vous dites « Monsieur Untel, pense qu'il faut développer les voitures en France parce qu'il est cadre chez Renault », on dira c'est normal. On ne dira pas c'est un complot, on ne dira pas que c'est le complot de Renault. Mais si vous dites « Monsieur Untel pense qu'il faut développer les voitures en France parce qu'en fait un ami de son beau-frère qu'il a rencontré au cours d'une soirée où il se passait des choses bien bizarres et qui était lui-même lié à des personnes très riches du Qatar, là vous avez un complot. Donc si vous voulez, un second problème tout à fait central est celui des liens qui vont être reconnus comme des liens normaux, légitimes, parce qu'ils sont étatiques, parce qu'ils sont sous la tutelle de l'État, et de liens qui vont être des liens personnels, invisibles. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, dans les romans que j'ai étudiés, qui sont été écrits entre 1915 et 1960, et surtout dans ceux écrits dans les années 30, et notamment chez Buchan, d'ailleurs, les Juifs reviennent très souvent comme étant le cœur de l'hypothèse de l'existence d'un complot, parce qu'ils ne sont pas nationaux, parce qu'ils sont considérés comme non-nationaux, même s'ils ont la citoyenneté. Ils sont considérés comme ayant une loyauté d'abord à leur, je sais pas quoi, entité juive, avant d'avoir une loyauté à l'État dont ils dépendent. Et parce que les liens que l'on suppose qu'ils établissent entre eux, que la connivence que l'on suppose qu'ils établissent entre eux n'est pas d'ordre officiel.
Il y aurait donc des victimes plus facilement désignables que d'autres pour la théorie du complot.
Je vous entends mal.
Il y aurait donc des victimes plus facilement désignables, plus naturellement désignables que d'autres dans le cas de la théorie du complot. Par exemple, vous prenez l'exemple des Juifs, c'est-à-dire tout. Lorsqu'on ne peut pas réduire une entité à un État, justement, oui, une entité fixe, sûr, mais qui prend la forme peut-être plus de flux, alors c'est considéré comme un danger et on essaye de surmonter ce danger en reconstruisant
bien
une
sûr
réalité.
Par exemple, dans les 39 marches, puisqu'on s'est centré sur ce livre, un des personnages dit si un brave Anglais veut faire des affaires avec les Allemands, il va rencontrer un jeune homme très chic qui parle un anglais parfait et qui s'appelle Von quelque chose, qui va le renvoyer à un Saxon brutal et grossier qui va sortir ses livres de comptes. Mais c'est pas là qu'est le vrai pouvoir. Le pouvoir, il est à la cave où il y a un vieux juif sur un fauteuil roulant, sans papier, sans rien. Et c'est lui qui tire complètement les ficelles. Donc ça, si vous voulez, c'est une idée qui a été évidemment renforcée par le protocole des sages de Sion, qui date de la fin du 19e, auquel un certain nombre d'autorités ont cru dans l'entre-deux-guerres, bien sûr les nazis, mais aussi, par exemple, des journaux importants anglais, et qui a été au centre de cette idée-là. Alors le problème, si vous voulez, ce qui est très difficile, spécialement par rapport à la sociologie, c'est que il est très difficile de faire une sociologie qui dise quelque chose de plus que ce que vous entendez dans une parole officielle, où on vous dit, par exemple, le Conseil d'État n'est pas d'accord avec le fait que, qui ne tienne pas compte de liens informels, de liens qui ne soient pas des liens encadrés par un dispositif juridique soutenu par l'État. C'est-à-dire qu'il est très difficile, effectivement, au fond, la sociologie aussi a une masse manquante de causalité, il est très difficile d'interpréter sociologiquement un certain nombre de phénomènes sans considérer qu'il y a quelque chose comme une affinité élective, reprendre les termes fameux de Goethe, ou un lien entre des gens, y compris des gens qui ne sont pas forcément sans arrêt en train de se passer le mot et de fomenter ensemble des plans.
D'autant que la sociologie part du postulat, en tout cas la sociologie telle que vous la pratiquez, Luc Boltanski, que la réalité est une construction. De toute façon, la réalité est le résultat d'une forme de construction. Donc quelle différence dans ce cas entre la réalité du sociologue et la réalité du théoricien du complot, par exemple ?
Bah, si vous voulez, les accusations de faire des théories du complot ont été... Le problème, si vous voulez, c'est que personne n'a réussi à définir un complot. Il y a Peter Knight, qui est le grand spécialiste de la théorie du complot et le meilleur là-dessus. Personne n'a réussi à définir un complot. Personne n'a réussi à définir ce qu'était une théorie du complot. C'est un peu problématique. Peter Knight a fait une encyclopédie de toutes les accusations de complot dans l'histoire américaine depuis la Révolution américaine du XVIIIe siècle. Là-dedans, vous avez des cas qui paraissent complètement absurdes, comme par exemple Roswell. Par exemple, l'idée que les présidents des États-Unis sauraient tous qu'il y a des vrais martiens qui sont des vrais extraterrestres enterrés à Roswell. Et vous avez des cas qui ont été déniés et qui sont considérés comme absolument justes, comme le Watergate. Et puis vous avez des cas qui sont toujours débattus, comme la question de l'assassinat de Kennedy, sur lequel vous avez plus de 2000 ouvrages écrits, qui n'est toujours pas, moi j'ai lu pas mal là-dessus, qui n'est toujours pas réellement éclairci. La question de savoir s'il y avait un seul tireur ou plusieurs tireurs n'est pas vraiment... éclairci.
Non, mais alors je présentais ma question dans l'autre sens. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans le théoricien du complot un élément critique indispensable pour montrer que la réalité n'est pas telle qu'elle paraît ? C'est aussi le rôle du sociologue que de montrer les mécanismes à l'œuvre sous-jacents derrière ce que nous prenons comme étant une réalité donnée une fois pour toutes. Le théoricien du complot et le paranoïaque peuvent être vus de manière plus positive comme ayant une position, disons, heuristique vis-à-vis de la société.
Le problème, c'est celui de l'enquête. Il y a des textes magnifiques qui ont été écrits par Wittgenstein juste avant sa mort.
Oui, j'en ai lu quelques-uns en vous attendant en début d'émission.
Republiés sous le titre de la certitude.
Tout à fait.
Et qui s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'au fond nous croyons certaines choses et pas d'autres. Pourquoi est-ce que je crois que vous êtes une journaliste de France Culture et pas une espionne de la Corée du Nord, par exemple?
Vous serez surpris. Sais rien. Oui. Bon.
Et il montre très justement que ça n'est pas en passant par notre expérience. Par expérience, nous savons très peu de choses. Et donc, c'est en faisant confiance à des autorités, qui vont être des autorités scolaires, universitaires, politiques, à la presse, etc. Ce qui fait que cette question se rapporte d'abord à la question de savoir pourquoi nous faisons ou non confiance à une autorité qui nous dit que les choses sont telles ou telles. Le second problème, c'est que quand allons-nous arrêter l'enquête ? Poursuivre l'enquête est extrêmement coûteux. Si, supposez que j'ai reçu une lettre qui m'apporte beaucoup, que j'envoie mon petit garçon à la boîte aux lettres dire « dis-moi si la lettre est arrivée ». Et puis il revient, il me dit « non, il n'y a rien ». Et que j'envoie quelqu'un d'autre ou que je vais moi-même pour vérifier que c'est bien vrai parce que je crains que l'agent d'une puissance étrangère ait influencé mon petit garçon, etc., je vais avoir à développer des cours d'action extrêmement coûteux. Donc, si vous voulez, assez bizarrement, quelqu'un qu'on appelle normal, c'est quelqu'un qui se contente d'assez peu dans l'établissement de la vérité, qui fait confiance à ce qu'on lui dit plus ou moins, ou qui accepte de rester dans un niveau d'incertitude tolérable pour pouvoir passer à autre chose. Notre grande question, c'est toujours de passer à autre chose, au lieu de rester enferré dans une ligne d'analyse. Et le détective style Sherlock Holmes, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui va se conduire comme un véritable paranoïaque au sens où il ne va jamais arrêter son enquête et au sens où le moindre indice, ce qu'il appelle indice, le moindre anomalie de la réalité va servir à nourrir sa recherche de l'énigme. Alors, si vous voulez, d'une certaine façon, le problème n'est pas tellement qu'il y ait des théories du complot ou pas des théories du complot. Le problème est qu'il y ait des théories qui soient plus ou moins vraies, plus ou moins justifiables, et des théories qui soient plus ou moins injustifiables ou vraiment injustifiables et liées à des accusations vraiment dangereuse.
Mais est-ce que le problème dans ce cas n'est pas le concept même de vérité ? Parce que vous citiez Wittgenstein juste avant, Wittgenstein dans « De la certitude », essaie de substituer le concept de certitude à celui de vérité en disant la vérité, de toute façon, nous n'y aurons jamais accès. C'est le scepticisme, le fait qu'on puisse douter de tout et qu'on ne peut jamais s'arrêter à une base stable, une assiette ferme qui nous permettrait de dire ça y est, nous sommes dans la vérité. Et donc Wittgenstein dit que le seul moyen de s'en sortir, finalement, d'accepter ce scepticisme, c'est ce qu'il appelle le voir comme. Vous savez, l'image qu'on peut voir à la fois comme un lapin et comme un canard. Accepter cette ambiguïté, cette ambivalence des phénomènes et de la réalité pour faire le deuil d'une vérité unique et singulière que le paranoïaque brandirait en disant « ça y est, je l'ai atteinte, elle est là ». C'est peut-être que ce qui est à l'œuvre derrière ça, c'est quand même cette espèce de fantasme et d'obsession de la vérité.
Si vous voulez, on a travaillé dans mon groupe de recherche pendant de longues années sur ce qu'on a appelé les affaires, c'est-à-dire sur des choses comme ça peut aller depuis le renvoi d'une secrétaire dans une organisation qui fait beaucoup jaser, etc., jusqu'à l'affaire Karachi, jusqu'à l'affaire Karachi. Dans la phase d'enquête, il faut être relativiste. C'est-à-dire qu'il faut écouter toutes les interprétations et tous les récits antagoniques que donnent différentes personnes des mêmes événements. Si vous prenez ce qui est le cas chaque fois que vous avez un conflit très très très, très important, vous prenez un problème par exemple du conflit israélo-palestinien, j'avais lu un article là-dessus, c'est que avant tout il y a deux récits historiques incompatibles. Bon, il faut les prendre tous les deux. Ou un problème quand vous avez un couple qui se sépare, c'est qu'ils ont deux récits antagoniques de ce qui s'est passé. Il faut les prendre tous les deux. Mais ce relativisme méthodologique n'est pas un relativisme politique ou éthique. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, que je suis tout à fait d'accord sur l'impossibilité d'atteindre une vérité absolue qui ne serait jamais remise en cause. Mais ça ne veut pas dire que toutes les interprétations sont également plausibles et que ce qu'apportent les éléments de preuve, c'est un bien grand mot, mais les éléments qui appuient une façon ou une autre de concevoir les choses sont également valables.
Merci Luc Boltanski d'être venu nous parler de paranoïa et théorie du complot aujourd'hui. C'est sur la bande originale de Sherlock Holmes que nous nous quittons.
Et pardonnez-moi d'être arrivé aussi en retard.
Vous êtes pardonné et je laisserai aux auditeurs le soin de vous dire s'ils vous pardonnent ou non. Le Énigme et complot, une enquête à propos d'enquête, c'est le titre de votre ouvrage disponible chez Gallimard. Et puis on en a beaucoup parlé, j'ai lu des extraits au début, on en a reparlé à la fin, de La certitude de Wittgenstein, disponible en tel Gallimard. Encore 2 minutes, papillon. La paranoïa et le complot nous sont-ils utiles ? Et oui, alors que la paranoïa montre le doute incessant d'un individu sans repère, le complot va tenter de recréer un monde où tout serait visible et clair. Explication avec Nicolas Vieille-Caz, spécialiste du cinéma et de Frédéric Jameson, au micro de Géraldine Mosna-Savoie.
La question de la paranoïa est dans l'époque contemporaine, et on le retrouve cette question de savoir qu'est-ce qui fait véritablement notre monde et qui peut-on croire ? Peut-on croire à la réalité de ce qu'on voit ? Cela signifie qu'en fait, la question de la paranoïa, telle qu'elle est traitée depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, met directement en jeu un problème qui est à la fois épistémologique et politique. Un film que je trouve très intéressant, c'est celui de Brian De Palma, Blowout, avec John Travolta. Et dans ce film, il n'y a qu'une seule scène qui permet d'avérer le complot. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tout est fait pour égarer le spectateur, pour à la fois le faire adhérer à la position du personnage principal et en même temps pour le faire douter en permanence de la réalité de ce qu'il voit. Ce qui est précisément intéressant dans ce film et dans d'autres films de De Palma, c'est l'incertitude dans laquelle De Palma place le sujet spectateur et qui est en même temps tout à fait typique de la situation de l'individu contemporain. C'est-à-dire qu'il s'agit de films sur la dissolution des repères, sur la dissolution des identités, et que c'est précisément ça le problème qui est la question politique centrale, en fait, pour l'individu contemporain. Ce que le complot montre, ou ce que la croyance dans le complot montre, c'est avant tout d'un désir de reconstituer une sorte de carte du monde dans lequel on vit. Quels sont les rapports de force réels ? Quelles sont les relations réelles entre les différents acteurs ? Qui est puissant et qui ne l'est pas ? Comment rétablir, en fait, des échelles de pouvoir dans un univers, par exemple, où soit les hommes politiques, par exemple, sont peu dignes de foi, soit semblent bien impuissants face au pouvoir, disons, des banques centrales, de la finance, que sais-je. Et je crois que le complot, le point de vérité du complot, en quelque sorte, pour parler dialectiquement, il est dans ce désir de constituer quelque chose comme un monde, c'est-à-dire comme une totalité.
C'était les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions consacrée à la paranoïa. Demain, je recevrai Luis Eduardo Prado de Oliveira pour évoquer le cas Schreiber à partir de ses mémoires d'un névropathe. Et d'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins, où vous pourrez également la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.